Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être fidèles à notre rendez-vous de cette fin d'après-midi, notre rendez-vous football dans Radio Foot, bien sûr, et une soirée encore, donc une émission encore consacrée à la Ligue des Champions. Avec ce soir de vérité d'une saison entière pour le Real Madrid. Aujourd'hui, dans leur stade, les Merengues vont tenter l'impossible, rester dans leur compétition en rattrapant 3 buts de retard. Mais les Gunners de Mikel Arteta ne l'entendront sûrement pas de cette oreille. Thomas de Saint-Léger est à Madrid, notre envoyé spécial. Le match sera retransmis ce soir sur RFI avec notre correspondant sur place, Pierre Chaperon. À Milan, les interistes pourront-ils confirmer leur soudain statut de favori face à une équipe du Bayern Munich qui rêve de cette finale dans son stade en fin de saison ? Un seul petit but sépare ces deux adversaires prétendant au titre et ce sera chaud à Milan vraisemblablement. Deux premiers qualifiés donc en demi-finale, le PSG et le FC Barcelone. Mais rien ne fut simple pour ces deux équipes hier soir. Les Parisiens ont été battus par Aston Villa, ils ont eu un long moment de flottement, les ramenant à la difficulté de cette compétition. Est-on trop critique envers les Parisiens? Et puis à Dortmund, sueur froide aussi, là pour les Blaugrana, malmenés par Serhou Guirassy, auteur d'un impressionnant mais inutile triplé. En tout cas, utile pour lui, le joueur de Dortmund, bien sûr. Invité dans ce studio pour évoquer ces sujets. Alors nous avons un Madrilène dans la place. Enfin, il est espagnol et il vient de Madrid et il connaît bien le Real. Bonjour Manu Terradios.
Buenas tardes, bonjour à tous, sauf à ceux qui n'y croient pas à la remontada.
Bon, bah alors, qui va sortir de ce studio? Bonjour.
Au revoir.
Bonjour, au revoir Naïm Moniol.
Salut Annie, salut à tous. C'était une belle émission.
Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et puis Salim Bongani est là aussi. Bonjour Salim.
Hola Annie, bonjour hello. À toutes et à tous.
Hello.
Oui, hello, hola. Oui, hello, oui, vous avez raison, puisque Arsenal va passer, vous avez raison.
Oui. David Finzel et Pierre Guérin m'ont aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Nous sommes tous là. Radio Foot, c'est parti. Le football gabonais, et nous commençons par cette triste nouvelle venue de Chine ce matin. Le tragique décès de l'international gabonais Aaron Boupenza, la panthère de 28 ans qui comptait 35 sélections pour 8 buts, jouait depuis quelques mois en Super League chinoise au club de Shenyang Greentown FC au sud de Shanghai. Et il est tombé du 11e étage de son immeuble. Une enquête est en cours, mais déjà les réactions sont nombreuses. La fédération gabonaise, la FEGAFOOT, veut se souvenir d'un très grand attaquant qui a marqué les esprits lors de la CAN au Cameroun, alors que le président gabonais récemment élu, Brice Oligui Nguema, réagit sur Twitter. C'est avec une immense tristesse que j'apprends la disparition tragique d'Aaron Boupenza, avant-centre de talent qui a fait honneur au football gabonais. Celui qui l'a bien connu, c'est son ancien sélectionneur Patrice Neveu et il a réagi tout à l'heure au micro d'Éric Mamrut.
Très attristé, je veux dire, je connaissais bien sûr le footballeur mais aussi l'homme et ce décès tragique m'attriste énormément. C'était un joueur très talentueux et très décisif de par son poste d'attaquant et de par ses qualités techniques. Un garçon extrêmement joyeux, extrêmement généreux, qui adorait aussi le football par-dessus tout, qui adorait aussi, bien sûr, la vie, mais qui n'a pas toujours été compris de son entourage. Mais bon, c'est comme ça. Un bon garçon, après, c'est de ce que je crois savoir. Il était dans une période un peu compliquée et voilà quoi.
Aaron Boumpenza, un attaquant, un buteur, passé par de nombreux clubs. Et il était passé en France, notamment par les Girondins de Bordeaux, par Pau aussi, le Gazélec Ajaccio et Tours. Salim Gomgali, on se souvient avant tout, nous qui suivons toujours les cannes, de l'international gabonais.
Oui, absolument. C'est vrai, vous avez raison d'insister sur ces sélections avec cette équipe du Gabon, pardon, et son parcours, notamment lors de la CAN au Cameroun, où il avait été performant, où ce duo d'attaquants, notamment avec Pierre Aubameyang, fonctionnait, et pas qu'un peu. C'est vrai que ça a marqué les esprits. C'est vrai que sa carrière, notamment en France, a été moins prenante, même si à Bordeaux, il a compté quand même un petit peu avec ses Girondins. Mais c'est vrai qu'on gardera, en tout cas à l'esprit, un joueur combatif sur le terrain, et notamment en sélection, vous avez raison de le dire.
Naïm Moniol, c'est évidemment toujours extrêmement triste, ces nouvelles, et quand on se souvient du joueur, on se souvient évidemment de ce côté positif, de ce qu'il irradiait aussi avec les Panthères, 35 sélections.
Oui, mais vous avez raison d'insister là-dessus, parce que c'est vrai que sa carrière de club est carrière plus de division inférieure ou de championnat très exotique.
Peut-être compliqué qu'on a
pas,
même.
Oui, qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais c'est vrai que c'était un garçon dont on n'a jamais entendu de mal. C'est vrai qu'au Gabon, ils ont toujours eu des problèmes pour rassembler leurs joueurs. Beaucoup de binationaux ne venaient pas ou pas tout le temps. Lui, il a toujours fait honneur à son maillot. Ce qui est surtout très choquant, c'est cet âge-là. C'est ces circonstances-là. C'est bon, des joueurs de foot, malheureusement, qui décèdent, il y en a. Mais là, de cette manière-là, je veux dire, quand j'ai vu l'information tout à l'heure, j'attends les suites de l'enquête, savoir ce qui lui est arrivé. C'était évidemment dramatique. Dramatique.
Oui, il avait bien, par exemple, été meilleur buteur du championnat
national
de Turquie.
Et de championnat national, il me semble.
Oui, du national et du championnat de Turquie quand il jouait à Hatayspor en Turquie. Nous reviendrons sans doute sur cette nouvelle et l'information est aussi suivie par le service des sports de RFI dans les journaux. Nous, on continue. It's Rice again! Oh! My goodness! Incredible! Declan Rice qui permet à Arsenal de croire en une qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Two unbelievable free kicks from Declan Rice! Il y aura un match retour mercredi prochain au Bernabeu. On sait le Real capable de tout. Et Arsenal a fait un grand pas ce soir. Et oui, ce grand pas force les Merengues à l'attaque. Cette équipe n'aura pas le choix face à Arsenal qui débarque donc avec 3 buts d'avance. Il leur faut gagner à cette équipe du Real Madrid. Alors froidement, les statistiques leur donnent 4% de chance de se qualifier. Mais même si ça fait peu, tout reste possible. Les madridistes ont été humiliés à Londres il y a une semaine. C'est une question d'honneur sans doute, mais aussi une question de statut, puisqu'ils sont les champions sortants et que cette Ligue des Champions est un peu leur compétition. En tout cas, l'ambiance doit être électrique autour de Santiago Bernabéu. Et avant d'y retrouver Thomas de Saint-Léger, notre envoyé spécial, on va écouter ce supporter que Thomas a rencontré hier, un Malien venu d'une autre ville espagnole pour être en tribune ce soir au Bernabéu.
J'habite à notre région, Huelva. Oui. Je suis venu pour regarder l'entraînement du Real Madrid ce soir. D'ici à mon région, ça fait 5 heures du temps pour rentrer à Madrid. Ça fait loin.
Pourquoi c'est important spécialement là?
Parce que c'est notre équipe, on mérite ça. On ne peut pas sortir ici. Non. Sans Madrid en Ligue des Champions, c'est comme zéro quoi. Madrid ne peut pas sortir d'ici, il faut qu'on remonte.
Vous allez voir le match où?
Au Bernabéu.
Ah, vous allez au stade?
Si, je vais aller au stade pour regarder le match.
Vous avez les billets et tout, c'est bon?
C'est tout.
Combien ça coûtait?
Ça fait 400 euros et quel.
Ah oui, c'est une belle somme.
Une belle somme, si tu aimes ton équipe, même 1000 euros, tu peux le faire. À la Madrid, à la Madrid.
Keïta, le Malien, qui a dû y mettre pas mal d'économies. Vous en connaissez un Colombien qui fait plus, Salim.
Exactement, il a été rencontré par des médias espagnols et il expliquait qu'il a fait le voyage hier pour arriver à Madrid parce que quand il a vu le match aller, il s'est dit « on va le faire au retour ». Donc il a fait le voyage, donc le billet d'avion, plus un billet à 1300 euros pour le match en question, billet au marché noir pour espérer une remontada.
Thomas de Saint-Léger, hola.
Hola.
Bienvenue dans Radio Foot, Thomas. Alors, racontez-nous si Madrid vit une ambiance un peu électrique dans l'attente de quelque chose de grand, peut-être, ce soir.
Oui, il y a un espoir un petit peu fou, en tout cas, qui flotte dans l'air et qui est contagieux. Et ça date pas d'hier, hein. Dès le lendemain, finalement, de la défaite, la claque reçue la semaine dernière, donc à Londres face à Arsenal. Dès le lendemain, les journaux espagnols s'y étaient mis en convoquant des exemples de remontada un petit peu historique du Real Madrid. Le titre d'un des grands journaux ici, donc le lendemain du match face à Arsenal, c'est possible. Et depuis, il y a un matraquage de cette possibilité de remontada qui est complètement contagieux, parce que ça part de la presse, des fans ultimes du Real qui cherchent absolument à se convaincre. Et puis ça touche les joueurs. Bellingham, qui était hier en conférence de presse, disait par exemple que depuis une semaine on parlait que de ça dans le vestiaire, et que les plus anciens avaient l'air tellement sur deux, tellement confiants, que ça avait touché tout le monde. Et finalement, il en parlait avec une forme de déconnexion presque par rapport à la réalité, enfin une sorte de confiance très exagérée par rapport quand même au contexte, quoi, aux trois buts pris, à la leçon reçue à Londres, et puis c'est quand même ces retards de trois buts à remonter qui paraît quasiment insurmontable, même si Madrid l'a fait dans l'histoire. Enfin, c'était en 1976.
Alors on a vu l'équipe de Madrid revenir parfois de situations compliquées aussi. On se souvient notamment de Karim Benzema, hein, qui avait renversé une situation. Bon, c'est arrivé, mais Manu Terradios, Thomas parle de matraquage. On a l'impression d'une méthode couée. Est-ce que c'est la meilleure solution pour passer?
C'est un truc que j'ai vu déjà tellement de fois, cette espèce d'ambiance un peu fou, de tout le monde qui croit. La différence que je vois cette fois-là, c'est que normalement, ça émane un peu du club. Et puis, c'est les supporters et les médias qui s'élancent. Et là, cette fois, je crois que le club a commencé un peu plus tard avec cette histoire de « c'est possible, on peut les faire ». Je vais te sortir une autre statistique, vous parlez de cela. Il y a 6 fois que le Real Madrid devait jouer les retours avec qui avait perdu les matchs d'aller avec 3 buts d'écart. Et à la moitié de fois, donc 50%, qu'ils ont réussi à le faire, de se qualifier. Donc, ce n'est pas si difficile. Et après pour ouais, 55, peut-être oui, peut-être pas. Mais pour comprendre, en fait, il y a des questions tellement faciles à répondre. Est-ce qu'il y a une équipe en Europe capable de réussir une telle remontada? C'est le Real Madrid. Est-ce qu'il y a un endroit où ça peut arriver? C'est le Santiago Bernabéu. Est-ce que ça va se passer? Évidemment, c'est très compliqué, on parlera après. Les faits, on avait déjà commencé Salim et Naïm avec moi, les débats, parce qu'il n'est pas capable d'attendre très au studio pour parler.
C'est vrai, c'est le seul qu'on a fait avant l'émission, vous avez raison.
La défense du Real, etc. Ça va être très, très difficile, mais on ne parlait pas il y a quelques jours de la remontada de Dortmund, on ne parlait pas de la remontada d'Aston Villa, mm-hmm. On parle toujours de la remontada de Real Madrid.
C'est pas abouti. Hein.
Annie, quand je vous dis que c'est contagieux, ça a touché Manu aussi. Hein.
Je suis à l'origine depuis des années déjà.
C'est facile, Manu.
Ce qui est affolant avec ce mot remontada, qui a été au final popularisé d'ailleurs par Barça PSG au final il y a quelques années, c'est vraiment là qu'on a utilisé ce terme quasiment pour la première fois.
Même si Sheriff Gamour a commis un livre, je vous promets qu'il n'y en a pas eu qu'une.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et le Real, on a même. J'ai envie de dire, des remontadas, il en a fait le Real dans des matchs, entre guillemets. Vous évoquez le match face au PSG, face à Chelsea, etc. Bien. Mais on a l'impression, et quand Bellingham même en parlait hier en conférence de presse, Thomas en parlait, on a l'impression presque que les joueurs, que le club convoquent presque le mystique. Nous, on peut le faire. On est capable, on est le Real. Essayez déjà de bien jouer sur le terrain, les gars. Essayez d'être solide défensivement, solide au milieu, solide offensivement, etc. Le match aller était tellement zéro. Ah ouais. On a envie de dire déjà aux joueurs, avant de penser au mystique, pensez déjà à vos jambes. Après, on pourra parler peut-être.
On va parler du match, mais d'abord sur ce côté irrationnel, sur ce côté faisable ou pas. Naïm, alors là, vous restez stoïque.
Le côté irrationnel, ça s'appelle la communication aujourd'hui. C'est-à-dire que s'ils disent autre chose, ils vont se faire tuer. Ils peuvent pas dire autre chose. Ils peuvent pas dire on va perdre. Ils peuvent pas dire ça va être dur, ils sont obligés de le dire. Effectivement, le passé récent.
Ils sont obligés de gagner.
Voilà, le passé récent va un peu dans ce sens-là. On a parlé du match contre le PSG, notamment. C'est la vérité. Ils l'ont fait comme quelque chose de très pragmatique et de très terre à terre. Que le Real, que Mbappé soit capable de mettre 3 buts, peut-être même 4. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'ils sont capables de ne pas en prendre? Toute la question est là. Toute la question est là.
Et pour aller dans le sens de Manu, à l'aller, est-ce qu'on pensait que Declan Rice pourrait marquer un 2 coups francs? Jamais il l'avait fait.
Il est-ce
l'a
qu'il fait. Donc voilà. Ça, on ne sait pas. En tout cas, celui qui veut y croire, c'est le chef d'orchestre de la Casablanca, bien sûr. Un homme au palmarès unique, hein. 5 Ligues des Champions comme joueur ou entraîneur. Mister Carlo, il veut donc y croire, au moins à travers son message. Et il avait un langage assez osé hier, Ancelotti, à votre micro en conférence de presse. D'avant-match.
Le soutien des supporters est très important pour nous. Il nous a beaucoup aidés par le passé. Je pense qu'il en sera de même ce soir. Il est évident aussi que nous devons être à notre meilleur niveau pour essayer de renverser une situation très compliquée. Nous voulons nous en sortir en changeant de mentalité, en faisant un match sérieux, avec la tête, avec le cœur et avec les « corones », comme dit le tennisman Carlos Alcaraz, et j'aime cette expression.
Alors c'est un détail quand même, Manu, mais c'est vrai qu'il l'a tatoué, Alcaraz. Il l'a pas dit comme ça au hasard dans une conférence de presse. Et c'est là qu'on s'en amuse. Il a 3 C qui sont tatoués, donc la tête, le cœur et les coronets. Thomas de Saint-Léger, un langage de vestiaire pour mobiliser ses stars, Carlo Ancelotti.
Oui, mais c'est pas la première fois. C'est vrai qu'il a, il a son air un petit peu distingué, oui, Mister hein. Carlo, etc. Mais il peut avoir un langage un peu fleuri, un peu, je dirais pas brutal, mais voilà, une manière aussi de parler à ces hommes pour toucher leur orgueil. Et je suis assez d'accord avec ce que disait Naïm tout à l'heure. C'est de la communication pour embarquer un petit peu les siens, parce qu'ils ont pas le droit de dire autre chose, même si je vous le dis. On a eu ces discours des dizaines, des quinzaines de fois, mais j'avais jamais senti autant d'auto-persuasion. C'est aussi une manière de faire peur quelque part, d'intimider l'adversaire, une équipe d'Arsenal qui, même si elle a les certitudes de son match aller, est beaucoup moins expérimentée, en tout cas les joueurs actuels à ce niveau de la compétition. Je crois que c'est 2009 la dernière demi-finale d'Arsenal. Donc c'est aussi un moyen de mettre la pression, de créer une atmosphère autour du match et de l'adversaire.
Salim.
Ce qui est vrai, c'est que c'est entré au final dans les esprits de tout le monde, fans, clubs, supporters adverses ou pas, que le Real peut le faire, effectivement, en tout cas, est en capacité de... Après, on l'a rappelé encore une fois, la dernière fois où ils ont remonté 3 buts d'écart, c'était il y a 40 ans quand même. Hein. Ils ont souvent fait football, hein. Un but, 2 buts, mais 3 buts, c'est quand même relativement rare.
Ils l'ont fait 3 fois
sur 6. Et puis juste, quand on en sourit avec le terme « coronesse » de Ancelotti, mais que lui le dise en conférence de presse, ça c'est rare. Qu'il le dise peut-être exactement. Dans le vestiaire, ok, mais qu'il le dise en vestiaire, face à la presse, ça c'est pas la même chose.
Ça, je crois que c'est organisé un peu. C'est un peu les messages en parlant de la com, c'est pas toujours les mêmes, mais je me souviens, il y a pas mal d'années, ils avaient perdu en Coupe de Roi 5-0. Et ils ont commencé à parler de Juanito, un ancien attaquant qui était mort, qui portait un peu les mêmes esprits, no, de cabeza, corazón, etc. Mm-hmm. Et du coup, ils ont sorti ces messages et tout le monde parlait de Juanito la semaine précédente. Donc, c'est aussi une espèce de message médiatique pour mobiliser.
Mais alors, quel plan peut avoir préparé Carlo Ancelotti, Manu?
Je vais vous parler du dernier test qu'il a fait. J'y crois pas trop, mais j'étais très, très étonné. Et en parlant, je parle de l'once titulaire. Ceballos, que ses premières minutes après sa blessure, titulaire au milieu de terrain avec Valverde, pour couvrir Valverde côté droit en défense, parce qu'il ne sera pas là, apparemment Asensio, le jeune défenseur, Tchouaméni, défenseur central, et Alaba comme arrière-gauche. Là, ce sont les derniers tests qu'il a fait, qu'il y a quelques médias qui ont pouvoir, mais évidemment, ce n'est pas quelque chose d'officiel. Je crois pas que ça sera. Je trouve trop risqué, surtout avec Ceballos, qu'il a pas de minutes. Voilà.
J'ai pas compris. Qui est arrière droit? Valverde.
Valverde, ouais.
Non. Asensio, les jeunes défenseurs, il sort de l'axe pour jouer à droite.
D'accord.
Valverde qui abandonne ce poste-là pour jouer au milieu avec Ceballos.
D'accord.
Alaba toujours à gauche en défense. Et Tchouaméni qui recoule pour être avec Rudiger en défense. Je ne crois pas que ça sera comme ça. Je crois que peut-être il a fait les tests. Je crois que peut-être c'était un peu organisé pour que l'info.
Et devant, il change rien.
Non, je crois pas. Je crois que c'est plutôt un test, un peu pour que la presse les publie, oui. Pour faire un peu le jeu.
Je reste sur mes positions, quel que soit le schéma de la défense et les joueurs qui jouent, sur le fait que c'est le maillon faible du PSG et qu'entre une attaque et entre une ligne.
Maillon faible du Real, c'est drôle comme voilà. La 6.
Comment? Vous avez dit du PSG.
Pardon. On va en parler. Entre l'attaque du Real et leur gardien, je reste convaincu que le vrai point faible, c'est la défense. Mais je pense qu'il y a quand même plus de chances de tenir un résultat en remontant Valverde au milieu de terrain, qui est quand même sa place, plutôt que de le faire jouer arrière-droit, qui est vraiment donner de la confiture au cochon. Je pense que d'abord, il a un abattage plus important au milieu que sur le couloir, parce que sur le couloir, à part prendre son couloir, il ne peut pas faire grand-chose en termes de mobilité. Là, au milieu, il couvre plus de terrain. Il a une frappe de balle qui est quand même très intéressante face à une équipe qui risque de jouer bas, je pense, puisqu'elle n'a pas à faire le jeu. Donc, voir Valverde remonter d'un cran, je pense que c'est une bonne nouvelle.
Je crois que ça sera plutôt, j'imagine pas Ceballos titulaire, franchement, face à une équipe anglaise. Peut-être Camavinga.
Thomas de Saint-Léger, David Finzel a eu cette expression tout à l'heure, comment changer le plomb en or, c'est-à-dire comment faire de ces stars des buteurs efficaces ce soir et coordonnés. C'est l'équation du Real ce soir.
Ouais, c'est parce que c'est la Semaine Sainte, là, vous êtes dans la métaphore religieuse. C'est-à-dire que moi, je sais pas, si vous voulez, comment répondre à ça. De toute façon, honnêtement, c'est pas du plomb, l'attaque du Real Madrid, parce que peut-être que ça marche moins bien en ce moment. Mais enfin, quand vous avez Rodrigo, Mbappé, Vinicius, vous avez déjà deux potentiels ballons d'or de cette année dans l'équipe. Et puis vous avez surtout, avec aussi, on va inclure Bellingham, que des joueurs qui sont capables sur un geste, un coup de génie de faire basculer ce match dans quelque chose d'un peu irrationnel. Et surtout, on se dit que si le Real venait à marquer rapidement un premier but, là, ça pourrait être des vagues devant la surface d'Arsenal et le rapport de force pourrait complètement changer. Et ces joueurs-là que j'ai cités, s'ils sont en confiance, s'ils sont poussés, ils sentent que s'il y a collectivement un élan, ils vont être redoutables. Et alors là, voilà, vous aurez la transformation du plan en or.
Thomas qui commence à croire, vous voyez. Thomas qui commence à voir déjà la remontada.
Thomas aussi a une perceptible à la contagion. C'est l'équation. Difficile à résoudre depuis le début de saison quand même pour Ancelotti, Manu. C'est ce quatuor, on va dire, de stars, de joueurs doués, de joueurs qu'on peut admirer.
Bah évidemment, surtout parce
évidemment, que... Vinicius, Mbappé, Rodrigo et Bellingham.
Il a essayé avec les systèmes. Je crois aussi qu'avec les différentes blessures... c'est par exemple quand on parlait de Valverde, il joue en défense parce que c'est la meilleure option quand tu joues avec une équipe puissante comme Arsenal, c'est pas parce que ça lui fait plaisir à Ancelotti de lui faire jouer là-bas. Donc là les blessures qui ont vraiment déséquilibré l'équipe et après c'est compliqué, il faut qu'il se travaille. Je crois que Bellingham cette saison, il est hyper fatigué, épuisé parce qu'il les déploiements défensifs qu'il a dû faire cette saison pour compenser les trois qui jouent à l'attaque. Et lui a fatigué, évidemment. Mais après, je crois qu'il
a aussi dû faire parce que Valverde était beaucoup moins au milieu.
Voilà, exactement. Ouais,
Salim,
pour prolonger votre propos, vous évoquiez effectivement offensivement ces joueurs qui marquent moins, en tout cas dans ces matchs-là. On attend surtout de Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, qui défendent bien aussi. Au match aller, ça a été une catastrophe défensivement, là où Arsenal a pu facilement franchir un rideau et ensuite un deuxième rideau.
Je ne sais pas si tu as vu, Mbappé l'a défendu contre Alaves l'autre jour.
Je pense
qu'il ne faut pas qu'il défende lui.
Mais vous voyez ce que je veux dire. Le problème est là quand même, c'est que défensivement ça ne marche pas. Et puis globalement, je rappelle que le Real cette année en Ligue des Champions, c'est 5 défaites quand même en Ligue des Champions. Le problème est aussi là, c'est que défensivement, il y a un gros souci.
On va se parler franchement. Ce match-là, c'est un scénario qui ne dit pas son nom. C'est est-ce que Mbappé va assumer le statut? En fait, on en est là.
Lors des grands matchs.
T'as fait venir le meilleur joueur du monde, en tout cas le meilleur attaquant, qui te coûte très cher. Tu as bouleversé ton schéma de jeu avec les deux de devant, avec Bellingham qui joue plus bas. Il est sur une période là, depuis on va dire novembre-décembre jusque là très récemment, où il enquille but sur but, doublé, triplé. Tu arrives là, tu dois marquer 3 buts. C'est les grands joueurs, hein, tu sais, je veux dire, pourquoi Benzema a pris le ballon d'or l'année où il l'a pris? Rappelle-toi le match contre Paris, pourquoi Cristiano a pris le ballon d'or?
Messi, exactement,
pourquoi ces mecs-là ont pris le ballon d'or? Ça se joue sur un match comme celui-là. Ce match-là, t'as les deux classicos qui se profilent, celui en finale de Coupe du Roi plus celui en championnat.
Alors il y en a un qui jouera pas.
Voilà, t'arrives sur la période Mbappé. Est-ce que t'es en mesure, là, ce soir, en Ligue des Champions contre Arsenal, de faire ce que les prédécesseurs ont fait? Et c'est pour ça qu'ils ont eu le statut. C'est ça, ça lui met la pression, hein, je l'entends. Mais après, t'es là pour ça, mec.
Alors évidemment, Arsenal est prêt. est venu. Peut-être ont-ils vu aussi les matchs d'hier soir. Ils ont vu que bien, on peut bousculer des équipes qui ont pris de l'avance au match aller.
Mais au final, elles ne sont pas passées. Voilà,
elles sont pas, c'est au ça final. Ils se sont préparés, ces Gunners, et c'est ce que nous dit leur gardien, un Espagnol, encore, David Raya.
Les supporters du Real, l'ambiance, le spectacle dans le stade, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Nous en sommes conscients, mais il faut faire abstraction de tout cela. Penser à nous-mêmes et à ce que nous pouvons contrôler sur le terrain avec le ballon. Il faudra jouer de la même manière que lors du match aller, nous créer des occasions de but. On est venu ici pour gagner le match.
Thomas, comment voit-on ces Gunners après évidemment l'impression qu'ils ont dû faire au match aller? Est-ce que quand même on frissonne autour de Bernabeu?
On est tellement, je pense, intéressé par la perspective et je vous disais d'une remontada que l'adversaire finalement n'a pas énormément de place dans les discours. Non mais c'est vrai, hein. Et je trouve que ça a été c'était intelligent de la part de Raya, puis mais aussi d'Arteta, de pas vouloir forcément rentrer sur le terrain dans lequel la communication du Real Madrid voulait les entraîner. Moi, je les trouve assez sereins en fait, ces joueurs d'Arsenal. Surtout, j'ai rappelé la statistique tout à l'heure pour une équipe qui est absente du dernier carré de la Ligue des Champions depuis 2009. Mais ici, à Madrid, ça aurait pu être Arsenal, une autre équipe, on va dire du niveau d'Arsenal. Avec ce même niveau aussi de réputation, je pense qu'on n'en aurait pas parlé plus. Je crois qu'on est vraiment concentré sur la possibilité pour le Real, qui, je reprends les éléments de langage, est le seul club possible capable de, qui a la capacité de, etc., faire cette remontada.
C'est vrai que quand on pense à ces Gunners, Thomas dit ils sont assez sereins. C'est vrai que la démonstration qu'ils ont faite au match aller, ces 3 buts d'avance, et puis cette progression qu'ils ont effectuée depuis 2019 avec Mikel Arteta, est-ce que le talent collectif va pouvoir contrer des vagues blanches, Salim?
C'est vrai qu'on se posait cette question, et le match aller a donné cette réponse, c'est qu'il y avait tellement blessés, on se disait ils n'ont pas de vrai neuf, ils ont des soucis au milieu, ils ont des soucis derrière, est-ce que ça a matché? On a vu ce qui s'est passé avec vraiment... Heureusement que Thibaut Courtois était là, hein, parce que sinon ça aurait donné 4, 5, 6-0 potentiellement. Maintenant, il y a quand même des petites incertitudes. Il y a eu ce week-end un match nul face à Brentford. Thomas Partey, et ça compte, est très incertain. Et s'il joue, il sera probablement pas à 100%. Ce week-end, Arteta l'a mis arrière droit.
Ça,
il s'est blessé.
Ça s'est tourné quand même ce week-end.
Mais attention, parce qu'au milieu de terrain, donc Jorginho est pas là, Partey peut-être pas à 100%. La question du milieu de terrain va être vraiment clé, hein, vous allez me dire, alors là je vais sur un poncif, mais si ce milieu de terrain se fait manger, ça peut aller très vite, danger vraiment pour Arsenal, ouais, même si il y a un homme qui moi me rassure, c'est William Saliba. Ce Saliba face à Mbappé, ça marche plutôt pour le défenseur d'Arsenal.
Naïm, mais cette équipe d'Arsenal, vous la voyez tenir?
Bien sûr qu'elle peut tenir. Elle peut tenir parce qu'elle a de la qualité. Elle peut tenir parce qu'en fait, elle n'a pas à faire le jeu. En fait, à Arsenal, ils attendent dans leur camp et puis derrière, ils opèrent en transition. Vous avez vu les joueurs qu'ils ont? Martinelli, Merino, Saka. Ils vont pas vite, ces mecs-là, c'est des fusées. Ils sont forts sur coup de pied arrêté. Que ce soit les coups francs, les corners, ils sont capables de faire une attaque placée. Il y a un banc de touche qui n'est pas extraordinaire, mais vous avez toujours 2-3 joueurs faites rentrer trop tard, vous ne perdez pas au change. Hein. Donc à un moment donné, bien sûr qu'ils vont tenir. Et en plus, ils ont le vent en poupe, sont sur une bonne dynamique. Voilà, eux, c'est acté, ils ne seront pas champions d'Angleterre, donc on va dire qu'ils sont peut-être moins là-dedans, moins pris par ça que le Real Madrid, qui peut encore essayer de faire quelque chose sur le Barça. Bien sûr qu'ils vont tenir. Ils ont fait tout ce qu'il fallait à l'aller. Il n'y a pas... Ils ont fait le job. Je suis désolé, Manu, hein, je suis pas optimiste. Hein. Je suis désolé, mon ami.
Quand,
mais...
quand on parlait des vagues de Real Madrid, moi, j'ai aussi un peu de mal. Je dis, pour moi, est-ce que le Real Madrid peut gagner 4-0? Oui. Est-ce que le Real Madrid peut tomber 3-0 aussi ce soir?
Qu'est-ce que tu vois hier aussi? Hier, Aston Villa, ils jouent super bien, mais ils sont pas capables de faire 90 minutes sans prendre un but. Prends Dortmund, ça joue super bien.
C'est le chapitre d'après,
ils peuvent
ça.
Pas faire. Oui, mais tu vois, c'est une passe décisive, Annie. Dans la profondeur, t'as plat du pied pour toi là. Tu vois, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut être en mesure de ne pas prendre de buts. Ce Real-là prend beaucoup de buts.
Thomas Saint-Léger, on nous promet donc du spectacle ce soir, hein, si on reprend les éléments de communication madrilène. Et vous serez avec Pierre Chaperon dans le stade. On vous envie à Bernabéu.
Oui, c'est ça, on a hâte d'y être et de vous faire vivre cette rencontre et ce potentiel scénario, allez savoir, à frisson.
En tout cas, François Le Texier aussi, lui, va être observé. Autre personnalité française d'arbitre. On sait que les arbitres, les madrilènes, sont moqueurs ou en disant « Hé, 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 l'arbitre, là, tu vas être pour nous ce soir. »
Vous savez...
Ça, il va être observé.
Vous savez, beaucoup jouent gros hein, ce soir. On parle aussi peut-être de l'avenir d'Ancelotti. Attention, ce sera pas dans l'immédiat, mais ce match va être très important pour la suite de son aventure madrilène, avec en plus la Coupe du Roi, la finale à la fin du mois. C'est un moment très important pour lui et pour le Real, là, les prochains matchs qui arrivent.
Vu les déculottés face à Barcelone.
Tu sais, Thomas, j'ai un peu l'impression que la décision elle est déjà prise chez les Real, peu importe ce qui se passe.
Ouais, hein. Ouais. Mais en tout cas, le fait qu'on en parle beaucoup, ça veut dire quelque chose. La question lui a même été posée assez frontalement en conférence de presse hier, et il n'a pas voulu répondre.
S'il gagnait une 16e Ligue des Champions pour le Real, peut-être que... Mais il aurait un sursis, Manu.
Bon, ah, il faudrait trouver une très bonne
excuse. Il a peut-être
envie
d'aller à la Coupe du Monde avec le Brésil, qui a bien besoin d'un sélectionneur. On verra ça. Il y aura aussi Sofiane Amazian et Patrick Juillard en studio à partir de 20h55. À tout à l'heure, parce qu'on se retrouvera pour aussi la deuxième émission, Thomas.
Avec plaisir, avec plaisir.
Muchas gracias. Les amis, on continue parce qu'il y a un autre match avant de parler... avant de reprendre votre passe décisive, Naïm. On a un match et c'est à Milan. L'Inter de Milan a impressionné tout le monde au fil de ces matchs, on va dire, de cette Ligue des Champions. Ils étaient déjà dans les 8 meilleurs. Et puis, ces deux buts inscrits absolument magnifiques à Munich la semaine dernière, chez le Bayern qui ne perdait pas depuis si longtemps. Les Bavarois arrivent en Italie comme une bête blessée peut-être, prêt à se battre hein, pour conquérir leur qualification en vue d'une finale qui sera organisée sur leur pelouse de Munich, dans une belle enceinte. Donc ce soir, à Milan, l'ambiance sera sûrement un peu folle. Les interistes, on les attend pour confirmer ce soir tout ce qu'on pense de bien d'eux, selon vous, Naïm ?
Bah, ils sont dans la même situation qu'Arsenal.
Ils ont un but d'avance.
Deux.
Non, pas trois. Ils ont seulement un but d'avance.
Ils sont dans la même situation qu'Arsenal, ils n'ont pas à faire le jeu, c'est au Bayern de le faire. Après, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier au match aller, c'est cette ultra efficacité. Et là, ultra, il y a peut-être même un mot au-dessus que je ne connais pas, mais voilà. Et cette ultra inefficacité du Bayern, je pense que l'Inter Milan a fait son succès cette saison globalement sur une solidité défensive, sur un gros bloc, sur des qualités vraiment, ils savent tenir un score. Ils vont être mis à rude épreuve ce soir. Oui, ils peuvent tenir. Ils peuvent tenir parce qu'ils sont très solides et qu'ils ont eu aussi des arguments offensifs. Mais ça va être dur.
C'est ça, là où il y a quelques instants, on évoquait le Real. On se disait, ils peuvent marquer 2, 3, 4 buts. Mais est-ce que vraiment le Real peut ne pas en prendre? Là où l'Inter, on se dit... presque, entre guillemets, peuvent tenir un 0-0, entre guillemets. Ils sont vraiment tellement solides défensivement. Et je me permets juste de prolonger. J'avais la chance d'être au classiqueur il y a quelques jours, le Bayern Dortmund. Et je vous assure, la manière, et on évoquera Dortmund là encore, mais la manière dont Dortmund a eu un nombre d'opportunités face au Bayern, je me dis que défensivement, cette équipe, elle est parfois inquiétante.
On les a vus, Dortmund, hier, on va en parler d'ici peu. Mais écoutons l'entraîneur des Munichois, le néophyte un peu. Alors lui, il la connaît, la Ligue des Champions, grâce à tous les matchs qu'il a disputés avec Manchester City, mais c'est la première fois qu'il est là avec une grosse équipe européenne. Vincent Kompany, qui ressent surtout une émulation positive.
C'est une pression positive, c'est une pression d'opportunité et pas une pression spécialement négative. Pour nous, c'est une force aussi. On joue contre une des meilleures équipes d'Europe, donc on sait qu'on fait face à un adversaire redoutable. Je pense que tout le monde parle des qualités défensives de l'adversaire, mais c'est une équipe avec des énormes qualités offensives aussi. Mais bon, dans le premier match, on a été dangereux, très dangereux même. Je ne dis pas que ce sera la même physionomie de match, mais à la base, il n'y a aucune raison de ne pas être confiant, il n'y a aucune raison de ne pas venir ici avec comme seul état d'esprit de gagner un match de football. Il ne s'agit pas d'un score de 2, 3 ou 4-0 qu'il nous faut, il faut juste gagner un match de football et ça on peut toujours le faire, donc on doit penser à ça surtout.
Bon, il leur faut juste gagner, donc au moins marquer un but pour au moins imaginer la suite. Se qualifier à Milan, selon vous, ils ont quand même comme buteur, eux, alors, le vieux Thomas Müller, le futur retraité au moins du Bayern, qui a marqué la dernière fois. Mais ils ont le Roi Sané, ils ont Gnabry, ils ont Harry Kane.
Olise,
surtout. À part Kane, c'est beaucoup de joueurs en difficulté, pour des raisons différentes, mais des joueurs vraiment inconstants.
Inconstants, je suis entièrement d'accord, c'est d'ailleurs pour ça. Manu, vous les voyez, vous, ces joueurs du Bayern Munich réussir à renverser cette Inter? Inzaghi, ils étaient finalistes il y a 2 ans hein, contre City.
Non, je le vois hyper compliqué. Pour moi, l'Inter, l'exploit, c'est déjà fait. C'est ça qu'ils ont fait en Allemagne. Maintenant, c'est une équipe qui est construite pour tenir un match comme celui de ce soir. Une équipe qui défend bien, qui a des belles et vites transitions avec des attaquants qui sont très vite. Donc, pour moi, c'est une équipe qui a tout en place pour tenir face à Bayern. Oli, c'est pour moi, il est magnifique. C'est pour ça que j'ai fait un peu moins de soucis, parce qu'il n'y a pas Musiala, mais je crois que ça ne suffira pas. Et on parlait tout à l'heure de la défense. La défense dont on avait soin, peut-être le Real Madrid, mais qui joue pour l'Inter de Milan. Ils sont pris...
ça ne joue rien. Hein.
Ils sont pris que 3 buts lors de ce match. Donc,
Benjamin Pavard, notamment, hein, dans cette
défense.
Revit,
ils sont, revit. Hein.
Ils sont pris que 3 buts lors des 11 matchs en Ligue des Champions. Donc, je crois que l'Inter, c'est pas que s'ils sont capables, est-ce qu'ils sont construits pour tenir un match comme celui qu'ils vont jouer ce soir?
Ce sera en direct sur RFI. On en parlera aussi, évidemment, pendant la soirée. Sofiane Amazian et Patrick Juillard auront les yeux rivés sur deux écrans. Une pause dans cette émission avec le Jamaïcain Clinton Ferron. Le titre, c'est Sleepwalking, un peu somnambule. Marcher en dormant, c'est ce qu'il ne fera pas faire, faudra pas faire ce soir en Ligue des Champions. Earth is crying out for attention. Are you ready? En marchant.
Je vous vois dandiner, Annie. Hein.
Ouais, c'est magnifique.
Il y en a qui font des carrières comme ça.
Le Jamaïcain Clinton Ferron sur la playlist de RFI. Rashford's in the mood again. Breezes his way in. Konsa scored now.
Ah, 3-2. La but de Konsa qui fait vriller complètement Villa Park. Et le but de Konsa, ça fait 3-2 pour les Anglais. Ils sont complètement fous, les supporters. C'est terminé. Ouf, quel soulagement pour le Paris Saint-Germain qui se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Champions.
Content, les Parisiens, et oui, ils sont en demi-finale pour la 5e fois de leur courte histoire, hein, club créé en 1970, et la 4e fois en 6 ans. Mais rien ne fut simple hier à Birmingham. Une sacrée soirée dont beaucoup de supporters gardent sans doute le frisson du danger. Mais alors là, la devise de la capitale, je crois qu'elle s'est appliquée totalement hier soir, hein, fluctua nec mergitur, le bateau a tangué, mais il n'a pas coulé. Alors, secoués, les joueurs de Luis Enrique hein, ont refait le match. Ils arrivent avec un score de 3-1, 2-0 au bout de 30 minutes, 2-1 à la mi-temps. Et puis, tout d'un coup, 3-2. Ça fait 5-4 quand même au final sur le total. Alors, on a souffert à cause de nous, a reconnu Achraf Hakimi. Était-il un peu trop confiant ? Eh bien, Luis Enrique répond, et en français.
C'est toujours difficile de qualifier pour la demi-finale de Champions League. C'est le deuxième consécutif et on est très contents. Le match a été très difficile et je pense qu'on a commencé de la meilleure manière avec les deux buts, mais après ça, on a eu des complications. Et jamais tu dois avoir excès de confiance, jamais, parce qu'un match de football change en chaque moment et tu dois être prêt. Tu dois voir ça dans le positif, dans le très positif, et on est clairement très content.
Alors clairement très content, on l'a vu, très content Luis Enrique, il les qualifie pour la deuxième année consécutive en demi-finale. Est-ce qu'on les a vus quand même trop beaux hier soir, avant le match, je dirais, ces Parisiens, vu ce qu'ils faisaient ces derniers temps, Naïm ?
Non, je ne crois pas qu'on les ait vus trop beaux, parce que Paris a fait une très bonne première mi-temps, excepté des 5 dernières minutes. Je pense surtout qu'on a vu un peu trop laid Aston Villa. Aston Villa, finalement, était bon une mi-temps sur 4, la deuxième d'hier, qui correspond à ce qu'il a été sur la phase régulière, une très très bonne équipe, une des meilleures d'ailleurs. Je pense qu'on s'est dit qu'à 5-1, c'était réglé, plié. On a oublié que c'était une équipe qui avait un gros pouvoir offensif, beaucoup d'agressivité. On en parlait tout à l'heure avec Salim quand on arrivait dans l'ascenseur. Les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, c'est un carnage. C'est un naufrage. On ne reconnaît plus le PSG. Non pas qu'ils aient mal joué.
On a revu quelques fantômes,
La malédiction. Je ne crois pas que c'est un problème de démotivation, de déconcentration, de je m'en foutisme, je me crois trop beau. Je pense qu'ils se sont juste fait prendre complètement par leurs adversaires, qui ont été très très bons sur la deuxième mi-temps. Sans Donnarumma, il y a une élimination, on ne va pas se mentir, je veux bien tout ce qu'on veut. Sans Donnarumma, vous avez une élimination. Mais je ne crois pas qu'on ait vu trop beau le PSG. Je pense que le PSG a simplement ultra dominé une rencontre face à un adversaire qui n'a pas été à son niveau.
Justement, dans ce sens, eh bien, écoutons le capitaine des Villans, John McGinn, exactement, parce qu'on l'a vu un peu pitbull, mais on l'a vu aussi buteur.
En ce qui me concerne, je n'ai jamais joué contre le Real Madrid ou le FC Barcelone, mais le PSG est la meilleure équipe que j'ai affrontée dans ma carrière. J'ai 30 ans, je prends de l'âge, et je n'aimerais pas me retrouver face à eux tous les week-ends.
Alors McGinn reconnaît que c'était un des meilleurs adversaires et qu'à 30 ans, il n'a pas envie d'en rencontrer tout le temps comme ça. Est-ce qu'on est trop sévère quand on regarde le Paris Saint-Germain, qu'on se dit peut-être que c'est la bonne année et tout et qu'on les critique trop, Salim ?
Non, je ne crois pas qu'on les critique. Hier, typiquement, c'est que depuis plusieurs semaines, il y a eu ce fameux match clé face à Manchester City. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'on ne cesse de voir une équipe du PSG qui est ultra dominatrice. On a vu la double confrontation face à Liverpool. Même s'il y a eu une défaite à l'aller, on se souvient, il ne devait jamais y avoir de défaite. Et au retour, on se souvient aussi. Bref, on a vu le match aller aussi où il y a eu un tel écart quand même entre les deux.
Mais c'est ça.
Alors, un non-match de la part de Villa. Et vous l'avez bien dit, Naïm, c'est pas que Villa soit laid, mais c'est que le PSG était largement dominateur et Villa, son métier, a été totalement dépassé, n'a pas voulu jouer presque. Mais hier, on a vu, et là où je ne rejoins pas Naïm, c'est que les joueurs même le disent. Ousmane Dembélé, après le match, dit « Mais à 2-1, on s'y est cru ». À 2-1, et il le dit lui-même, à 2-1, on s'y est cru, sous-entendu, on s'y est cru qualifié. Alors est-ce que, à ce moment, dans la tête et dans les jambes, comme on s'y est cru, on va aller plus tranquille, on se préserve pour la demi, etc. Et Villa s'est engrouffé dans le truc, parce que Villa s'est dit, et sans doute que le discours à la mi-temps de la NBA a dû dire, et les gars, c'est le moment ou jamais, peut-être, de vous montrer et de montrer qu'on est capable de le faire. Il y a peut-être eu un peu deux aussi.
Toutes les errements défensifs de Villa en première mi-temps, tu ne les as pas en deuxième. Le fait qu'il soit battu sur tous les ballons au pressing ou sur tous les deuxièmes ballons, tu les as pas.
Il y a eu un changement.
L'agressivité, elle est là.
Aussi.
Moi, je pense que c'est Villa. Aussi. Villa vraiment a mis. Et tant pis pour eux, Villa, ils avaient qu'à être meilleurs sur les trois premières mi-temps. Peut-être qu'ils ont grimpé d'un curseur et que là, le PSG s'est vu dépasser parce qu'il n'avait pas eu à faire ça, finalement, aussi, sur un match et demi. C'est ça le truc.
Manu, est-ce que aussi on n'a pas vu la grande force nouvelle, je dirais, du Paris Saint-Germain, c'est-à-dire ne pas paniquer ? Alors, on l'avait vu, par exemple, justement, ce fameux match de City. Et souvent, quand ils encaissent un but, ça ne les empêche pas après de revenir au score et de l'emporter. Est-ce qu'hier, justement, ces 20 dernières minutes du match, quand même, on voit qu'ils reprennent le contrôle et que même si la ferveur est énorme autour d'eux, ils tiennent ?
Surtout, je pense aux mots de Dembélé et de Luis Enrique. Dembélé, quand il a parlé, on se croyait tout beau et on pensait que c'était fini. Luis Enrique, il a parlé en espagnol, il a dit « on a tremblé, on tremble ». Donc, je crois qu'ils sont vraiment fait peur et je crois que ça va vraiment servir à l'équipe. Et parce que je crois qu'il ne s'attendait pas vraiment que Villa soit capable de faire ses pressings et de jouer à ces niveaux. Je crois qu'ils vont tirer des choses positives. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que chaque fois qu'ils sont en Ligue des Champions, ils font un peu face à l'inconnu. Parce qu'il n'y a pas de rivaux en France pour comparer. Donc déjà avec Liverpool, ils se sont qualifiés, mais quand même, il faut s'en souvenir que c'était au tir au but. Hein.
Oui, mais c'est la Ligue des Champions.
Voilà. Et avec Aston Villa, c'était aussi Pacho William, dernière des Madsen, la volée.
Oui, c'est vrai. Le FC Barcelone, 4 buts d'avance, c'était beaucoup et heureusement, car les jaunes et noirs, eux, ne voulaient en tout cas pas être ridicules au match retour. Ils l'avaient dit, Niko Kovac, et ils ont été, on peut le dire, sauvés par celui qui avait été longtemps le meilleur buteur de la compétition et qui hier a inscrit un triplé pour de nouveau l'être, même si il ne pourra plus compétir ensuite. Et pour le plus grand plaisir de son entraîneur, Serhou Guirassy, dont Niko Kovac tresse les louanges.
Serhou ist für uns wichtig, habe ich immer wieder gesagt, ist unsere Lebensversicherung. Und ich habe mich da nicht getäuscht. Ich bin bestätigt worden in meiner Aussage. Und wir hoffen, dass wir genauso agieren. Denn wenn wir das gemeinsam machen als Team, wenn jeder Einzelne über den Punkt rüber geht, wenn jeder Einzelne den Meter macht für den anderen, dann haben wir genügend Qualität in der Mannschaft, um dann auch Bundesligaspiele zu gewinnen. Und Serhou braucht einfach.
On l'écoute avec la traduction. Je crois que ça sera mieux parce que l'allemand parfois c'est compliqué.
Il est difficile de mettre un joueur en avant après ce match, mais Serhou Guirassy a inscrit un triplé. Il aurait pu mettre un ou deux buts de plus en première mi-temps. C'est une grosse performance. J'ai toujours dit qu'il était notre assurance vie et ma déclaration a été confirmée. On espère que ça va continuer comme ça. Quand on fait les efforts ensemble, que tout le monde se surpasse, on a la qualité pour gagner les matchs. Serhou a juste besoin du soutien de ses coéquipiers.
Mais on avait compris ça en allemand, hein, et pas de
n'est-ce pas ? Il fallait pas les traductions.
Il était très gentil. 13 buts et 4 passes décisives pour sa première Ligue des Champions. Là, il a régalé. Alors oui. Peut-être que Rafinha et Lewandowski qui sont juste derrière le passeront, mais c'était sa soirée hier.
Je pense même que c'est sa saison. Je pense même, non mais vraiment, il a atteint un niveau cette année qui est absolument magnifique.
Il est sur deux saisons même, puisque Stuttgart l'année dernière s'est déjà fait.
Et puis 3 buts complètement différents, un coup de pied arrêté, un penalty, un but de la tête, un but du pied. Il a travaillé, il a défendu.
Parce que lui, bon, Naïm, Panenka un peu à la mode Zidane.
Puis une vraie Panenka en plus, hein, vraiment belle comme il faut et tout. Et il a fait une campagne absolument folle, parce qu'en plus, lui, il compte pas ses efforts. Quand on parle d'attaquant qui défend, lui, il galope le bétail. Et puis Dortmund fait pas non plus une saison extraordinaire. Enfin, ils sont pas encore mathématiquement qualifiés pour la prochaine Ligue des Champions.
Voilà même.
Donc il a fait quelque chose d'extraordinaire. Je crois pas qu'il y ait un joueur africain, j'ai pas la stat, mais je crois pas qu'il y ait un joueur africain qui ait fait aussi bien sur une saison.
Non, c'est le meilleur buteur de l'histoire sur une saison.
Ça veut dire quelque chose. On sait
Mané, Salah.
On sait que le foot allemand, c'est un foot d'attaquant, que vous pouvez être un attaquant modeste, moyen, en Ligue 1, et être très bon en Bundesliga. Mais là, il y a quand même un passage de cap, à la fois sur ses statistiques et sur son profil, sur son jeu. Il s'est épanoui complètement, ouais. Tant mieux pour lui, parce que ça a l'air d'être quelqu'un de bien.
Et insistons encore une fois, c'est la deuxième saison de suite où on le voit phénoménal à Stuttgart l'année dernière. Phénoménal, on se dit...
Il les avait maintenus une année quasiment tout seul. Absolument. Je me rappelle du barrage contre Hambourg.
Et il est qualifié l'année dernière donc pour la Ligue des Champions.
Et là,
il
ça va être important là, pour essayer d'accrocher une place européenne.
Exactement, puisqu'ils ont 6 points de retard sur la 4e place, donc ça va jouer à pas grand-chose. Il reste encore 5 journées simplement. Mais... Arriver à Dortmund, c'est-à-dire un autre cadre, et on passe un cut quand même avec Dortmund, et marquer 13 buts, je rappelle juste sur une saison, il n'y a que 4 joueurs qui ont fait plus dans l'histoire de la Champions, Messi, Ronaldo, Lewandowski, Benzema. Ça vous met quand même au niveau, et à quel niveau Guirassy est arrivé, c'est ça qui est épatant, je reconnais. Je pensais jamais qu'il ferait ça. Il a réussi. Bravo.
En tout cas, il a dû surprendre les Barcelones. Et là, les Blaugrana, ils n'en menaient pas large.
Très vite, c'était les pires matchs de la saison de Barcelone. Et ce n'est pas qu'ils vont perdre tout à partir de maintenant, mais c'était les pires. Il faut remercier Szczesny. C'était la fin des 24 matchs sans défaite. Une statistique de Lamine Jamal 2. Pas un seul tir cadré, une autre. Il a couru que 1,3 km de plus que les gardiens.
Il fait comme les madrilènes.
Voilà. Donc voilà, il faut... Donc, je crois qu'on verra plus Barcelone jouer à ce niveau. Il faut se préparer, mais bon, la défaite,
eux,
c'était à cause de
eux, les pires. Par rapport au PSG, je pense vraiment qu'ils ont pris le match en mode c'est bon, on est qualifiés. Vraiment.
4 buts d'avance. Bon, ça, ils sont donc qualifiés eux aussi, PSG, Barcelone. On continue dans Radio Foot International à partir de 21h10 en temps universel, deuxième édition, et avant le match Real Arsenal.